France Inter.
Bonsoir à tous. Cela ressemble à l'OTAN, oui, mais ce n'est pas l'OTAN. Au lendemain du sommet en Alaska, Donald Trump semble prêt à proposer aux Ukrainiens des garanties de sécurité. Volodymyr Zelensky est attendu à la Maison-Blanche lundi. On prendra la direction des États-Unis au début de ce journal. Alors que la résignation semble gagner une partie de la population ukrainienne, on verra que les concessions territoriales ne sont plus un sujet tabou. Des pluies diluviennes et des torrents de boue qui emportent tout sur leur passage. Le Pakistan fait face à une mousson d'une intensité inhabituelle. Le bilan dépasse les 300 morts, témoignages à suivre. On parlera aussi de cette journée de mobilisation dans les pharmacies en France. On ira en Gironde, où il a encore fait plus de 40 degrés aujourd'hui. Mais la canicule est en train de perdre du terrain, Virginie Hilson-Lévy. Il va faire un peu moins chaud demain.
Oui, enfin, une bonne nouvelle avec des températures en baisse, notamment sur la moitié sud, et je vous en parle dans quelques minutes.
Et puis les ennuis sont-ils enfin terminés pour les Lyonnais? L'OL semble bien parti pour remporter le premier match de cette nouvelle saison de Ligue 1. On part à Lens à la fin de ce journal.
France Inter.
On se souvient de cette scène d'une brutalité inédite, de cet échange plein de colère et d'amertume sous l'œil des caméras. En février dernier, Volodymyr Zelensky avait été quasiment chassé de la Maison-Blanche. Le voilà pourtant à nouveau invité lundi prochain pour discuter des suites du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et un sujet pourrait s'inviter dans leur discussion. Quelle garantie de sécurité en cas d'accord de paix? Car c'est la nouveauté. Loïc Glory, vous êtes à New York pour France Inter. Le président américain semble prêt à offrir des garanties aux Ukrainiens. Inspiré de celle de l'OTAN.
Ça ressemblerait à l'article 5 du traité de l'OTAN, mais sans adhésion formelle à l'organisation. Voilà ce qu'a proposé Donald Trump aux Ukrainiens, selon une source diplomatique qui évoque un mécanisme inspiré du fameux principe de défense mutuelle au cœur du traité de l'Atlantique Nord. Vladimir Poutine s'y serait dit favorable, et tout cela sera discuté lundi à la Maison-Blanche en présence de Volodymyr Zelensky. En attendant, les contours du dispositif demeurent opaques. Pourquoi en effet le Kremlin accepterait-il un tel mécanisme dérivé de l'article 5 après avoir dénoncé depuis des années toute adhésion de Kiev à l'OTAN comme une menace existentielle, Donald Trump ayant renoncé à sanctionner Moscou et à pousser pour un cessez-le-feu? Vladimir Poutine a peut-être aussi gagné sur ce tableau avec à la clé des garanties de sécurité au rabais pour l'Ukraine. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et si la rencontre de lundi prochain, la Maison-Blanche se passe bien, un sommet tripartite pourrait être organisé, dit Donald Trump, avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Le dirigeant russe qui sort en effet renforcé de son déplacement en Alaska où il a réitéré ses exigences. Et en Ukraine où vous vous trouvez, Boris Loumaïn, l'opinion publique commence à évoluer, notamment sur l'abandon de certains territoires.
Cela a longtemps été un tabou dans la société ukrainienne, mais l'idée de concession territoriale à la Russie commence à être évoquée par quelques responsables politiques ici. En clair, cela voudrait dire abandonner définitivement une partie du Donbass, notamment. Vassil, qui travaille pour une ONG, y pense.
Prenons la Crimée, par exemple. Elle est sous occupation depuis des années. Là-bas, toute une génération a grandi avec la propagande russe. Donc je suis sûr à 95% qu'on n'arrivera pas à récupérer la Crimée. Et en ce qui concerne les régions de Donetsk et Luhansk, bien sûr, ce serait dommage, mais c'est la réalité. C'est peu probable qu'on les conserve.
Mais offrir sur un plateau une partie des terres ukrainiennes pour lesquelles tant d'hommes et de femmes se sont battus et se battent encore, c'est un dilemme profond pour ce soldat ukrainien, Sergui, qui est en permission actuellement et qui se balade dans les rues de Kiev avec sa petite fille.
En tant que père, je ne veux pas continuer la guerre. Personne ne souhaite la guerre. C'est ce qu'il y a de pire. Mais en tant que soldat, en tant qu'homme, parce que les Russes nous ont envahis pour nous tuer, nous violer, nous voler, alors je suis prêt à me battre jusqu'au bout.
Et la position du combattant, celle de Sergui, c'est aussi celle du président Zelensky, qui refuse pour le moment toute concession territoriale à la Russie.
Le président ukrainien, merci Boris Loumaïn, qui est toujours soutenu par les 27. Le chancelier allemand, le premier ministre britannique et le chef de l'État français se réuniront demain après-midi en visioconférence. Bien déterminé à revenir dans le jeu diplomatique, Emmanuel Macron appelle à maintenir la pression sur la Russie tant qu'une paix solide et respectueuse des droits de l'Ukraine n'a pas été conclue. Ils étaient 66 hier, 54 aujourd'hui. Ils ne seront que 36 demain. Les départements en vigilance orange à la canicule sont de moins en moins nombreux en France. La vague de chaleur commence à s'estomper. On va faire le point dans quelques minutes. Et dans le sud-ouest de la France, les vacanciers espèrent bientôt retrouver des températures plus clémentes et des nuits aussi plus reposantes. Reportage au camping de Villandreau en Gironde, signé Erwan Chassin.
Malgré la chaleur, le camping affiche complet. Des tentes, des caravanes sont disséminées sous les pins. Les chaises pliantes sont sorties et l'apéritif aussi chez Philippe et son épouse.
Nous, avec la patronne, c'est souvent soit c'est champagne ou vin mousseux.
Ça aussi, c'est un moyen de m'attendre que la chaleur passe.
Comme on est très gourmand, on en boit beaucoup dans la journée et on oublie la chaleur.
Bien sûr, avec modération, voilà, évidemment. Ouais. Mais une fois l'effet du vin mousseux passé, eh bien, la vie au camping sous 40 degrés, c'est quand même difficile, même à l'ombre des arbres.
Comme tout le monde, on essaie d'éviter tous les déplacements toute la journée.
Et la nuit, c'est encore pire.
Tout le monde le sait, quand il fait chaud comme ça, on dort mal.
Dans votre caravane, il fait combien ?
28-30.
De nuit ?
Oui, de nuit. C'est pas supportable.
Pas supportable et donc pas reposant du tout. Embêtant lorsqu'on est en vacances.
En journée, c'est vraiment... les gens sont en pause. On les voit pas beaucoup.
Heureusement que le camping de Villandreau dispose de bons arguments. Que demandent les clients avant chaque réservation, constate Ginny, sa gérante.
Voilà, la fraîcheur et une piscine. S'il y a des arbres, si c'est ombragé, c'est les deux premières choses qu'ils demandent quand ils appellent en règle générale. Les gens, ils veulent vraiment partir en vacances et je pense qu'ils s'adaptent. Mais oui, la chaleur est pas facile. Mais voilà, on se dit ça va retomber un petit peu et ce sera mieux, on pourra souffler un peu.
Encore un peu de patience, Météo France prévoit une sortie de canicule à partir de demain.
Santé, bonheur.
Reportage d'Erwan Chassin en Gironde et puis en Espagne aussi, les habitants devraient commencer à mieux dormir. Les températures caniculaires vont baisser à partir de lundi, mais en attendant, le pays continue de combattre les incendies, notamment dans le nord-ouest. Une dizaine d'axes routiers restent coupés dans le pays, ainsi que la ligne de train entre Madrid et la Galice. Et puis au Pakistan, c'est la mousson qui semble être le symptôme du changement climatique. Des pluies diluviennes d'une intensité inhabituelle selon les autorités se sont abattues sur le nord du pays. On dénombre plus de 350 morts en seulement 48 heures. Et le bilan pourrait encore s'alourdir, Ajra Mohammad, car les secours tentent toujours de retrouver les corps ensevelis.
2000 secouristes sont mobilisés au Pakistan, essentiellement dans le nord-est du pays et la province de Khyber Pakhtunkhwa, la plus touchée. Dans le district de Bunner, par exemple, 17 membres d'une même famille qui vivaient dans la même maison sont morts. Un voisin raconte au journal de la chaîne GU News.
J'allais travailler et sur la route, j'ai vu une coulée noire me foncer dessus. Elle dévalait à toute vitesse et montait au-dessus des arbres. Des gens au loin me faisaient signe et me criaient « Sauve-toi, sauve-toi !» Alors j'ai fait demi-tour. Et il y a au moins une centaine de maisons qui ont totalement disparu.
Et dans les villages les plus reculés, en pleine zone montagneuse où toutes les routes sont coupées, les rescapés désespèrent en attendant les secours.
Jusqu'à présent, on n'a vu aucun secours. On n'a plus rien, même plus d'eau à boire. Je n'ai jamais vu des inondations pareilles.
Le Pakistan est l'un des pays au monde les plus touchés par les conséquences du réchauffement climatique. Ces moussons en sont la preuve, rappelle le climatologue François Gémen.
Il est certain que la fonte des glaciers et des contreforts de l'Himalaya va créer des phénomènes de crues. C'est ça qui fait que le Pakistan est très régulièrement touché par des inondations parce qu'il est à la fois vulnérable au risque de moussons, mais aussi au risque de crues liées à la fonte des glaciers de l'Himalaya.
Au Pakistan, les autorités craignent de voir le bilan s'alourdir alors que les pluies doivent s'intensifier encore ces deux prochaines semaines.
Précision signée Ajra Mohammad. Voilà qui risque de tendre encore un peu plus le climat politique en Côte d'Ivoire. L'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, qui est inéligible mais candidat à la présidentielle du mois d'octobre, appelle ses partisans à s'opposer à un quatrième mandat du président sortant Alassane Ouattara. Il demande à ses militants d'organiser des marches à travers le pays.
France Inter. Céline Asselot.
Une découverte macabre et encore beaucoup de mystères. Mercredi, quatre corps étaient repêchés dans la Seine à hauteur de Choisy-le-Roi. Et une deuxième enquête pour homicide a été ouverte aujourd'hui. Bonsoir Sarah Guibaudeau.
Bonsoir.
Les enquêteurs avaient rapidement pu établir que l'un des corps présentait des traces de violence, mais des lésions ont aussi été découvertes sur un autre corps, c'est ce qu'indique le parquet de Créteil.
Oui, ces cadavres, tous de sexe masculin et adulte, ne portaient pas de plaies visibles au premier coup d'œil. Pour le premier, assez préservé, l'autopsie pratiquée jeudi a établi qu'il avait subi des violences. On sait aussi qu'il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années qui habitait le Val-de-Marne. Les trois autres corps sont dans un état de dégradation avancé. Une première source policière les avait décrits comme de type africain, alors qu'il s'agirait d'individus caucasiens noircis par la décomposition. C'est un examen au scanner qui a révélé des traces de violence sur un deuxième cadavre et le parquet de Créteil a confié à la brigade criminelle une deuxième enquête. Il estime que rien ne permet de relier les affaires. Seuls les courants du fleuve et les obstacles comme des branchages expliqueraient que les corps aient été repêchés ensemble près du pont de Choisy, séparé de quelques dizaines de mètres. L'un d'eux, flottant à la surface, avait été aperçu par un passant. Des examens complémentaires, des analyses ADN notamment, sont en cours pour comprendre à quand remontent ces morts et pour identifier les trois derniers corps.
Merci Sarah Guibaudot, service police-justice de France Inter. Sa nomination avait été vivement critiquée au sein de l'Église, y compris par la Conférence des évêques de France. Le prêtre Dominique Spina ne sera finalement pas promu chancelier du diocèse de Toulouse. L'archevêque est revenu sur sa décision. Le prêtre avait été condamné en 2006 pour viol sur mineur. Il fallait faire des kilomètres aujourd'hui pour acheter du Doliprane ou bien du Sfasfon. Les pharmaciens étaient appelés par l'un de leurs syndicats à faire grève aujourd'hui contre une décision du gouvernement. Les remises commerciales accordées par les laboratoires aux pharmacies vont être plafonnées à 30% contre 40% actuellement, ce qui représente, selon les intéressés, un important manque à gagner. Alors, dans les rares officines ouvertes aujourd'hui, la file d'attente était parfois longue. Raphaël Aubry l'a constaté à Issy-les-Moulineaux, près de Paris.
C'est la course à l'intérieur de cette pharmacie à la devanture bleu clair. Une petite dizaine de personnes dans la file en moyenne depuis ce matin, bien plus que d'habitude. Baptiste Adriani, l'un des responsables, n'arrête pas.
Oui, à peu près le triple. Ouais.
Et en plus, vous êtes tout seul aujourd'hui?
Oui, c'est une petite pharmacie.
Vous avez fait le choix de rester ouvert dans ce contexte de grève?
Voilà, en soutenant le mouvement néanmoins, mais pour ne pas handicaper les patients. On a d'autres moyens d'action.
Dans ce quartier près de l'hôpital suisse de Paris, cette pharmacie est la seule ouverte aujourd'hui. Loïc a fait plusieurs tours en voiture pour la trouver.
Exactement, en ville, elles étaient toutes fermées. Et là, en rentrant à la maison, effectivement, on en a trouvé une d'ouverte. Et comme ma femme sortait de l'hôpital, c'était assez important de trouver une pharmacie aujourd'hui, quoi. Mais bon, vu que celle-là a été ouverte, on a été assez rapidement soulagés.
Manuel ressort avec son chien en laisse et un produit à la main.
C'était pas urgent, donc c'est pas grave. Au pire, j'y serais allé lundi.
Comme la plupart des habitants rencontrés, la jeune femme comprend le mouvement des pharmaciens.
Enfin, si ça impacte eux, leur quotidien, c'est vrai que c'est pas comme si là, on se dit pendant un mois, on n'a plus d'accès aux médicaments. Là, effectivement, on peut se dire, bon, là, ça peut être problématique.
Sauf que le mouvement devrait continuer dans les prochaines semaines. Les syndicats envisagent de nouvelles fermetures de pharmacie en septembre.
Et notamment une nouvelle journée de mobilisation le 18 septembre. Les valises dans le coffre et la maison en ligne de mire. Des centaines de milliers de vacanciers ont pris la route ce samedi. La journée était classée rouge dans le sens des retours. Ce sera encore le cas demain dans le sud-est avec des gendarmes particulièrement mobilisés. Reportage sur l'A8 dans les Alpes-Maritimes d'Anne-Livia Tolinki.
Les gendarmes à moto slaloment sur l'A8 entre les véhicules. Une voiture blanche les intrigue, ils font un signe au conducteur et l'escortent jusqu'à la sortie au niveau de l'aire de la Côte d'Azur.
Bonjour monsieur, sur l'armée.
Axel demande d'avoir le permis de conduire.
Est-ce que je pourrais avoir la carte grise du véhicule également?
La carte grise, je n'ai pas sur moi et mon téléphone, je viens de le perdre à la plage.
Mm-hmm. La dernière fois que vous avez passé le contrôle technique du véhicule, c'était quand monsieur?
Le conducteur fouille dans sa boîte à gants, il déplie une feuille.
Donc du coup, je vous informe que votre contrôle technique, il est dépassé. Vous allez donc être verbalisé?
Ça fait chier un peu. Ils ont raison, je peux rien dire. C'est blindé, il n'y a plus trop de touristes, il y a trop de véhicules. Ils ont le droit de faire des petits contrôles et je comprends la situation.
Dans la voiture derrière, les gendarmes font un contrôle de stupéfiants avec un test salivaire et un chien spécialisé.
Parce que les stupéfiants, oui, ça multiplie par 34 les chances d'accident mortel.
RAS, l'automobiliste peut repartir. Le gros des contrôles se fait aussi sur les cars, celui qui arrive à une plaque d'immatriculation hongroise. Siège par siège, les gendarmes vérifient tous les passeports.
C'est bien que les gens soient contrôlés dans les transports publics. Tant que je suis à l'heure à l'aéroport, moi je m'en fiche. Ça nous fait nous sentir en sécurité. Alors c'est un petit inconvénient, mais c'est nécessaire.
Le contrôle ne prend que 5 minutes, juste le temps de rappeler aux voyageurs de bien attacher leur ceinture et aux conducteurs de rouler doucement.
Reportage Anne-Livia Tolinki sur l'A8. Et puis dans les Vosges, un grave accident de la route est survenu en début d'après-midi. Trois voitures sont entrées en collision sur la commune d'Uxenier, faisant 3 morts et 5 blessés. C'était l'heure de la rentrée pour les Lyonnais. Elle se passe plutôt en douceur après une saison marquée par les difficultés financières et une relégation en Ligue 2 évitée de justesse. L'OL remporte son match d'ouverture face à Lens. Bonsoir Thomas Lavaux.
Bonsoir.
En direct de Lens, 1-0 pour les Lyonnais.
Oui, c'est très très anecdotique à cette heure, mais ça suffit à leur bonheur. Voici les Lyonnais, co-leaders de la Ligue 1. Une victoire obtenue grâce à un but de Georges Mikotadze dans les arrêts de jeu d'une première période durant laquelle l'OL aura montré de belles aptitudes à la récupération du ballon et sur les contre-attaques. En seconde période, les Lyonnais ont surtout brillé par leur défense, notamment dans les 30 dernières minutes, après l'entrée du nouveau Lensois, Florent Thauvin, le champion du monde 2018, recrue phare du Racing durant l'été. Il a beaucoup tenté, touché beaucoup de ballon, mais sans permettre à son équipe de revenir au score. Lyon remporte cette rencontre marquée par une belle intensité, mais deux équipes dont le jeu, on le sent, n'est pas encore tout à fait au point. C'est surtout vrai pour Lens qui a eu les occasions de but en seconde période pour arracher le match nul, ce qui n'aurait pas été immérité.
Merci Thomas Lavaux en direct de Lens. Les autres affiches de la soirée, ce sera Monaco face au Havre et Nice face à Toulouse. Et puis il a éliminé deux joueurs du top 10. Il s'est hissé dans le dernier carré du tournoi de Cincinnati aux États-Unis. Le Français Terence Atman fait sensation depuis quelques jours. Il se prépare à un nouveau défi. Le jeune joueur de Boulogne-sur-Mer, classé 136e mondial, va affronter le numéro 1 Yannick Sinner pour une place en finale. Le match commence tout à l'heure à 21h. Tout de suite la météo.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Bonsoir Virginie Hilson-Lévy.
Bonsoir à tous.
Et ce soir, les températures restent élevées.
Oui, notamment entre l'Aquitaine et l'Occitanie et la basse vallée du Rhône, avec encore plus de 30 degrés ce soir au thermomètre. Et une nuit prochaine encore étouffante sur ces régions. Plus au nord, c'est plus respirable, 23 à 25 degrés. Et le temps redevient plus calme sur les Alpes. Alors ce dimanche, la canicule va persister sur une grande moitié sud. Mais les températures amorcent enfin une baisse de 2 à 3 degrés de moins localement. 30 à 35 degrés, mais toujours de très forte chaleur de l'Aquitaine vers la Méditerranée avec 35 à 37 degrés à l'ombre et 40 degrés possibles sur la région toulousaine vers l'Aude et l'Hérault.
Et dans le nord, le temps va être plus agréable.
Oui, des températures qui retrouvent enfin les normales de saison. 25 à 30 degrés, 25 à Lille et Caen, 27 degrés dans les rues de Paris, 29 à Strasbourg. Et le temps sera aussi calme et ensoleillé avec seulement en journée des orages dans les Alpes du Sud et la Corse. Mistral, Tramontane souffleront jusqu'à 60 km/h en rafale avec un risque d'incendie qui s'annonce toujours bien présent sur les bords de Méditerranée.
Merci Virginie Hilson-Lévy.